Donc ça a tendance à s'enfricher assez vite avec des fougères aigles, des ronces. Du coup, une de nos premières interventions, puisqu'il nous permettait aussi de nous faire un peu la main sur un grand terrain à l'affût, ça a été de venir faucher à l'affût, voir aussi un petit peu comment le terrain se comportait, où est-ce que se trouvaient les zones de rétention d'eau. Voilà, donc on a pris le temps de créer le projet, on va dire. Et puis après, du coup, les aménagements qui ont été faits, ça a commencé cette année à plus grande échelle. Donc l'idée, c'est de venir créer un verger ici, mais pas que. C'est un peu un verger jardin aussi, un espace de convivialité autour de la cabane, un endroit pour se réunir, un endroit aussi pour faire des animations. Donc c'est un lieu de rencontre et un lieu de vie, de façon générale, autant pour les humains que les non-humains. Et donc du coup, dans ce projet-là, l'idée c'était de venir faire effectivement une mare, une grande mare, une partie verger, une partie plus jardinée, une partie autour ici qui est plus une zone de convivialité avec le feu, les tables, etc. Et le tout en respectant au maximum le vivant et puis l'existant aussi, ce qui est déjà là. Donc aussi bien les animaux qui sont là, mais aussi toutes les plantes. On essaie vraiment de faucher en faisant le tour des plantes qui nous intéressent, celles qui sont un peu plus un peu plus sympas. Et puis de toute façon on laisse un peu de tout parce que le terrain est grand, donc il y a de la place pour les ronces encore, pour les orties, pour tout ça. Et puis après, l'autre intervention qu'on peut avoir, c'est de venir diversifier. Parce que de toute façon, on est sur une petite parcelle, donc on est sur un milieu relativement homogène. Donc là où on peut avoir un impact, c'est venir diversifier du coup cette parcelle-là, créer des milieux qui n'étaient pas présents.
Comme la mare, par exemple.
Comme la mare, comme les SH. Il y a des tas de pierres là qui sont autour du foyer.
Oui, j'ai entendu un mot bizarre, c'est hibernaculum,
ah
non,
oui.
C'est ça?
Dans la mare, dans le talus de la mare, il y a un hibernaculum.
C'est quoi ça?
C'est un
tas de pierres.
C'est un tas de pierres, de branches recouvertes de terre, en partie, qui permet à des serpents, par exemple, de venir passer l'hiver à l'intérieur, à des lézards de se réchauffer sur la pierre qui est au soleil. Comme les pierres chauffent, ça emmagasine de la chaleur et ça permet de... d'améliorer les conditions de vie des espèces à sang froid.
Je reviens sur le nom du temps de la terre. Dedans, il y a aussi le temps. Et c'est vrai que le fait de pouvoir intervenir dans un jardin où on l'a observé presque pendant 2 ans avant d'intervenir réellement sur le terrain, on sait qu'on reviendra intervenir dedans sur plusieurs années. Comme on a tendance à planter des tout petits arbres qui se ressemblent à des petites brindilles pour l'instant, en fait, le temps que les choses s'installent, on trouve que c'est important aussi pour les jardiniers de prendre en compte ce temps et de continuer à venir entretenir et observer et peut-être faire évoluer le jardin au fil des années.
Alors, sa spécificité, comme un peu le nom l'indique, parce qu'on a choisi évidemment un nom qui disait quel était le projet qu'on avait derrière, c'est, on va dire, une double spécificité, à la fois la volonté de faire du paysage vivant, donc vraiment en respectant la nature, en respectant aussi les gens, puisqu'on fait partie du paysage et du vivant. Et il y a une autre spécificité qui est, je parle de vraiment de choses générales là, le fait qu'on ait voulu faire une entreprise qui soit éthique. Donc on a aussi cette dimension sociale, démocratique. Donc on est sur une forme qui est très très proche d'une coopérative, avec très peu de hiérarchie. Des systèmes de décision qu'on essaye de rendre toujours plus démocratiques. et puis du coup, un usage à la fois des outils, des matériaux, des logiciels qu'on utilise, qui soient aussi à la fois le plus respectueux, le moins consommateur de ressources, le plus aussi, on va dire, en faveur des libertés qu'on puisse avoir. Et donc, ça nous mène à une autre spécificité, c'est la plus technique de l'entreprise, qui est qu'on travaille quasiment non motorisé, à 100%. Donc à quelques exceptions près, quand on n'a vraiment pas le choix. Mais
Oui, on a entendu au cours du reportage une machine, mais je crois que c'était le voisin qui...
C'était le voisin, oui. Là, c'était pas nous. Donc, on intervient avec quelques machines de façon très exceptionnelle, mais c'est vraiment pas l'esprit de l'entreprise, donc on essaye d'éviter au maximum. Ouais, donc c'est surtout dans des grosses opérations de terrassement. Sinon, tout le reste, donc fauche, tonte, coupe de bois, tout ça, en fait, on est vraiment que avec des outils non motorisés, donc non thermiques, non électriques. Et ça rejoint à la fois une volonté de ne pas détruire l'environnement, donc de ne pas consommer de ressources. Il y a aussi une question de respect des lieux, parce que le problème des machines, c'est que c'est tellement efficace, parce que c'est l'énergie qui fait le travail, que même avec un opérateur très bien intentionné, on va toujours trop loin, enfin, quasiment toujours trop loin. même quand on est très très écolo, on a tendance à se laisser emporter par la machine parce que c'est trop efficace, donc on tond trop, on coupe trop, on débroussaille trop, sans forcément se poser la question de savoir si c'est vraiment vraiment nécessaire. Et puis du coup il y a une autre raison dans ce choix de recourir le moins possible, en tout cas de façon très raisonnée, aux machines, c'est la question aussi des libertés de nous déjà en tant que jardiniers, des autres aussi, parce que du coup ça nous permet de nous fournir quasiment à 100% dans des fabriques européennes, donc chez des artisans, un petit peu aussi plus loin au Japon par exemple, mais en tout cas que chez des gens qui ont un vrai savoir-faire, un travail respecté, des droits, et pas on n'achète pas des tondeuses du coup qui sont fabriquées par des enfants dans le tiers monde. Donc il y a cette volonté là, et puis les outils manuels, c'est aussi des outils qui sont réparables, qu'on peut entretenir quasiment toute la vie, réparer, refaire, adapter à nous, à notre usage, détourner. Donc voilà, ça nous permet d'être vraiment libre et de laisser les autres libres aussi.
Eh bien, on est toujours sur Principe Actif et on est toujours dans notre émission Bio Radio Biodive. Et maintenant, ça va être l'espèce du mois.
Je suis la grenouille à grande bouche. Et toi, comment tu t'appelles ?
Alors, l'espèce du mois est une hirondelle.
Mais laquelle ? Parce que des hirondelles, il y en a plusieurs.
Alors, on va principalement parler de l'hirondelle de fenêtre, mais on verra aussi rapidement l'hirondelle rustique, l'hirondelle de rivage et un autre oiseau qui ressemble beaucoup, qu'on confond souvent avec les hirondelles, mais qui pourtant n'en est pas une.
Lequel ?
Ah, un peu de patience. Tu verras bien. Tu peux nous en dire quand même un petit peu plus sur le nom de l'hirondelle de fenêtre ?
Ah oui, mais je suis impatient de savoir quel est cet oiseau mystère. Bon, enfin, l'hirondelle de fenêtre s'appelle hirondelle de fenêtre, tout simplement parce que c'est une hirondelle. Alors, hirondelle, c'est en vieux français, c'est aronde. En latin, c'est hirundo. Donc, tout simplement, voilà. C'est la même chose, hirondelle, hirundo. Et elle fait ses nids sur les façades des maisons, souvent sous un petit rebord, un avant-toit, enfin on le dira tout à l'heure, et donc souvent à l'angle des fenêtres. Donc hirondelle de fenêtre, c'est l'hirondelle qui niche près des fenêtres. Et en latin, ça s'appelle Delicone urbicone. Urbicum. Donc Delicon, c'est une anagramme du mot grec ancien kélidon qui signifie hirondelle. Donc on retrouve la même chose, hirondelle. Et Urbicum signifie urbain, de la ville, en latin. Remarquons, si on a le temps, que Linné en 1758 l'avait classée dans le genre Hirundo, comme sa cousine rustique, et qu'elle a changé de genre pour adopter Delicon 100 ans plus tard. Alors en anglais, elle s'appelle Western House Martin, ce qui signifie hirondelle de maison occidentale. Alors, les Anglais, ils ont une petite particularité, ils ont deux mots pour parler d'hirondelle. Ils disent martin, c'est plutôt les petites hirondelles type hirondelle de fenêtre ou hirondelle de rivage. Et puis, ils disent aussi swallow pour l'hirondelle rustique. Voilà. Parlons de l'hirondelle rustique deux minutes. Elle s'appelle Hirunda rustica, ce qui signifie exactement en latin la même chose que hirondelle rustique en français. Et en anglais, ça s'appelle barn swallow. Barn, c'est l'étable. C'est donc une hirondelle qui niche un peu dans les étables. On verra pourquoi tout à l'heure. L'hirondelle de rivage s'appelle riparia riparia. Riparia, ça veut dire rivage en latin. Et Sand Martin, c'est, on retrouve le mot Martin comme pour l'hirondelle de rivage, de fenêtre. Et Sand, parce qu'elle creuse des terriers dans le sable. Sand, c'est le sable. Mais alors, cet oiseau mystère, c'est quoi ?
Ah, c'est le martinet noir. De son petit nom scientifique, Apus apus, et c'est pas vraiment une hirondelle.
Il a des puces ?
Non.
Et à quoi elles ressemblent les hirondelles de fenêtre ?
Alors, les hirondelles de fenêtre, elles sont assez petites. Hein, en longueur, elles font à peu près 13 cm. En envergure, entre 26 et 29 cm aussi. Donc, elles sont bicolores. Elles ont tout le dessus noir avec des reflets bleus. Elles ont le croupion blanc. Donc, le croupion, c'est la fin du dos. Et le dessous entièrement blanc. Une toute petite queue fourchue, mais qui n'est pas en filet, pas de gorge rouge, non plus, comme l'hirondelle rustique. Et elles ont des pattes recouvertes de plumes blanches.
Et je vais vous parler, moi, un peu de son habitat. On dit que ce sont des animaux rupestres, c'est-à-dire qu'elles nichaient à l'origine sur les parois rocheuses. Comme sa cousine rustique, c'est très bien adaptée. Elle s'est très bien adaptée aux humains, mais elle est plus citadine. Aujourd'hui, on la retrouve surtout en agglomération. Contrairement à l'hirondelle rustique qui aime bien des endroits fermés comme les étables ou comme les garages, moi j'en ai une qui vient dans mon garage, donc je suis content parce qu'il paraît que ça porte chance. Les hirondelles de fenêtre, au contraire, elles ont besoin de l'accès à l'espace aérien, c'est pour ça qu'elles sont plutôt sur les façades des maisons, mais plutôt sous un rebord de toit ou au coin d'une fenêtre. On pourrait dire que sa deuxième maison est le ciel, et que c'est ce que tu vas nous expliquer, Camille, en nous parlant de sa nutrition.
Oui, parce qu'elles se nourrissent exclusivement d'insectes, donc principalement de petits insectes volants, tels que les mouches ou les moustiques, bonne nouvelle pour moi. Elles les chassent en plein vol, plutôt à grande hauteur, parfois même en compagnie des martinets. Elles sont assez sociables et grégaires, hein, c'est une caractéristique de cette espèce. Donc aussi bien pour se nourrir que pour faire les nids, donc qui sont collés les uns aux autres. Et bien sûr, en hiver, il y a un petit problème puisqu'il n'y a plus d'insectes volants. Est-ce que tu peux nous dire comment elles font du coup pour s'adapter ?
Bah effectivement, en hiver, elles n'ont plus d'insectes, donc elles sont obligées d'aller les chercher ailleurs. Et notre hirondelle est une migratrice. Elle part dès la mi-septembre en Afrique, plus loin que sa cousine rustique, du Sahara à l'Afrique du Sud. Et elle revient plus tard en Normandie, mais pas avant la mi-mars. Comme elle va plus loin, elle revient plus tard. Son nid, on va parler un peu de reproduction, son nid est fait de boue séchée en forme de sphère, plus fermée que la coupe ouverte de l'hirondelle rustique, et elle se situe sous un abri, donc comme on l'a dit, avant toit ou au rebord de fenêtre. La nidification se fait en colonie entre mai et septembre. Quand elles viennent, on commence déjà dès à présent à les entendre, par exemple au Beau-Sainte-Croix, on verra tout à l'heure ça avec Jean-Pierre. Et quand on a ces hirondelles qui arrivent et toutes qui se regroupent en colonie auprès de leur nid, eh bien, on les entend. Comme on l'a dit, la nidification se fait en colonie, les nids se touchent entre mai et septembre. Elles pondent 3 à 5 œufs blancs et il y a une nichée la plupart du temps par an. Exceptionnellement, il y a une deuxième nichée. Les insectes capturés sont enduits de salive et donnés en pâture aux petits sous forme de boulettes d'insectes. En période d'intempéries, quand la température chute, les jeunes peuvent sombrer dans une sorte de catalepsie et interrompre leur croissance, qui leur évite de mourir, quoi. Ils n'ont pas de nourriture, mais ils peuvent quand même survivre un certain temps. La durée du séjour au nid peut varier, elle peut varier de 3 à 5 semaines. Mais où est-ce qu'on peut la trouver, cette hirondelle ? On la trouve partout en Normandie ?
Dans beaucoup d'endroits quand même, mais pas que en Normandie, hein. Elle niche largement sur l'ensemble du territoire métropolitain quand même, y compris en Corse, et elle se reproduit aussi bien en plaine qu'en zone montagneuse. On la retrouve aussi dans toute l'Eurasie, à l'exception de terres arctiques ou subtropicales, de l'Europe occidentale à la Sibérie. En Asie, de l'Atlantique au Pacifique et jusqu'en altitude, tant qu'il y a des villes. Alors, quels sont les dangers qui peuvent menacer ces hirondelles ?
Alors, elle a un prédateur qui est un superbe oiseau, c'est le faucon hobereau, qu'on peut voir quand il y a un regroupement d'hirondelles. Alors, c'est un peu triste parce qu'il y a des hirondelles qui passent, mais c'est un beau spectacle quand même. Hein. C'est un peu terrible. Mais bon, il faut quand même dire que le danger principal, c'est quand même l'absence de nourriture. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une étude pour regarder le déclin des insectes. Il y a un déclin des insectes. Or, ces oiseaux, comme on vient de le dire, sont exclusivement insectivores. Et donc, avec moins d'insectes, il y a moins de nourriture, donc il y a moins d'oiseaux. Et ça, c'est dû malheureusement au fait qu'il y a des champs cultivés, et que dans ces champs cultivés, on met quoi ? On met des insecticides. Et les insecticides, c'est fait pour quoi ? Pour tuer les insectes. Le deuxième problème qu'elles ont, c'est un manque d'endroits où elles peuvent nicher. Parce que de plus en plus, les maisons sont très propres et il n'y a plus des petits trous, on ne supporte plus d'avoir des salissures sur les maisons. Et donc, les gens, ils détruisent facilement les nids. Ce qui est interdit. Alors, on le verra tout à l'heure avec l'interview de Jean-Pierre et on verra un exemple de protection qu'on a réalisé au Beau-Sainte-Croix. On verra ça lors de l'interview avec Jean-Pierre. Quel est son statut ?
Alors, malgré toutes ces mauvaises nouvelles, entre guillemets, elle est classée LC. Alors, ça veut dire préoccupation mineure, donc dans le monde, même si elle est en déclin et observée même si c'est un déclin observé en Europe. Donc, entre 1980 et 2019, la population d'hirondelles de fenêtre montre un déclin de 26% de ses effectifs nicheurs en Europe.
Espérons qu'on verra encore longtemps ces regroupements d'hirondelles nombreux à la fin de l'été. Chez moi, au Val-David, elles se regroupent, les hirondelles, alors qu'il n'y a pas de, nid d'hirondelles au Val-David, mais quand les hirondelles rustiques commencent à se regrouper pour partir en Afrique, et ben les hirondelles de fenêtre viennent aussi. Et j'ai des regroupements, heureusement, encore assez nombreux, d'hirondelles de fenêtre et d'hirondelles rustiques qui viennent tourner, se fixer sur se poser sur les fils, et c'est un spectacle magnifique. Et voilà, elle se pose sur les fils électriques un petit peu comme des notes de musique sur une portée. Eh bien justement, pause musicale.
Eh bien, c'était Pink Floyd, Grantchester Meadow.
Et on est toujours sur Radio Biodive avec Principe Actif. Et ce mois-ci, l'interview est un petit peu différée. On a été interviewé notre ami Jean-Pierre qui suit une colonie d'hirondelles de fenêtres au Beau-Sainte-Croix. Bon, bah aujourd'hui, on est avec Philippe. Je suis avec Philippe et puis on vient interviewer Jean-Pierre qui est chez lui dans son fief au Beau-Sainte-Croix. Salut Jean-Pierre.
Bonjour à tous.
Bonjour. Bon, on va parler de quoi aujourd'hui du coup ?
Bah, on va parler des hirondelles de fenêtres, c'est-à-dire des oiseaux qui viennent régulièrement tous les ans coloniser notre village là, depuis déjà pas mal d'années. En fait, on s'en est inquiété au début. On les voyait assez régulièrement, mais bon, on ne faisait pas trop attention. Et puis, quand il y a eu les projets de travaux de rénovation de l'école, de la partie qui logeait la directrice de l'école, on s'est dit il y a peut-être un problème parce que les fenêtres vont être changées et il va falloir qu'on enlève les nids ou qu'on les déplace. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est inquiété et qu'on a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Et avec naturellement Roy, donc on a créé un dossier qu'on a présenté à la DREAL pour faire cette opération.
Ouais, oui, faut
bien préciser que on n'a pas le droit de détruire les nids de ces hirondelles.
Absolument.
De toutes les hirondelles.
Oui, c'est ça, exactement.
Espèce protégée, donc espèce interdiction protégée. De détruire les hirondelles, mais de détruire aussi les nids, même si c'est en hiver et qu'elles sont plus là.
C'est ça, exactement. Donc on a décidé de poser des nids artificiels.
Eh ben on va se rapprocher.
Et ben voilà.
Bon, du coup, on connaît un peu le dossier parce qu'on a accompagné la mairie, mais ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des travaux qui sont prévus, qui sont obligatoires. Là, rénover les fenêtres, par exemple, pour gagner en déperdition de chaleur et en confort, etc., c'est des travaux qui sont indispensables. Mais il y a quand même une petite procédure à faire quand on veut faire des travaux et que ça impacte des nids d'hirondelles.
Ah oui, ça les impacte parce que en fait, les hirondelles de fenêtres nichent à l'extérieur des bâtiments. Et notamment dans les encadrements de fenêtres. Et dès qu'on va toucher à la fenêtre, dès qu'on va vouloir la changer, on va être obligé de casser le nid. Et c'est là le problème, quoi. Du coup, on a protégé les encadrements de fenêtres pour empêcher les hirondelles de s'installer. Et on a compensé en mettant d'autres nids artificiels ailleurs. Pas très loin pour ne pas déstabiliser la colonie, bien sûr.
Donc, alors on peut dire que ouais, c'est, du coup les hirondelles elles aiment bien vivre, tu parles de colonies, donc elles aiment bien vivre ensemble en fait avec plusieurs nids.
Oui, alors il y a aussi un truc qu'il faut dire, c'est que tout ça est contrôlé par un organisme officiel.
Ouais, on peut pas, alors quand on veut faire des travaux et que ça impacte des nids d'hirondelles, effectivement il faut faire une procédure auprès de la DREAL, donc c'est la Direction Régionale de l'Environnement et de l'aménagement et du logement.
Et toi, Alex, tu fais une demande officielle.
Ouais, du coup, on a accompagné la commune, donc on a fait une demande, donc il y a une procédure à respecter. Déjà, il y a un timing où il faut intervenir. Donc évidemment, on ne va pas faire les travaux et détruire les nids d'hirondelles au moment où les hirondelles sont là, parce que sinon, on détruit la nichée et on détruit les jeunes ou les œufs, donc c'est vraiment...
Donc, travaux en hiver.
Travaux en hiver. Alors, nous, ce qu'on a proposé avec Jean-Pierre, l'idée c'était de détruire les nids en hiver qui allaient être impactés par les travaux. On ne savait pas trop la date où allaient être faits les travaux. Et du coup, de proposer des nids de substitution au moment de travaux. Alors après, on a quand même dit à l'entreprise qu'il fallait faire les travaux assez rapidement. Et je crois qu'ils ont fait pendant l'hiver. Mais après, on peut aussi anticiper, si les travaux, par exemple, doivent être faits l'été, on peut anticiper l'hiver de détruire les nids, proposer des nids artificiels.
C'est ça, oui, tout à fait. Exactement.
Il y a tout un protocole à suivre. Si c'est à moins de 100 mètres, si les nids artificiels sont posés à moins de 100 mètres des nids originels, on peut mettre que un nid détruit, un nid artificiel. Si c'est à plus de 100 mètres, il faut mettre deux nids artificiels pour un nid détruit. Il faut doubler la mesure compensatoire. Et après, il y a un suivi qui doit être fait pendant 3 ans pour voir si la mesure compensatoire est efficace.
Là, ça a bien marché, puisque en fait, depuis ces 3 ans, c'était 2021 exactement qu'on a installé ça. Donc ça fait plus de 3 ans d'ailleurs. Et donc du coup, ça a maintenu la colonie. Ça s'est bien passé, puisque maintenant, la colonie est toujours là, et elle vient tous les ans.
Et on peut, je pense qu'on peut facilement dire que... si on n'avait pas mis ces nids de compensation et que les nids avaient été détruits, ça aurait pu fortement impacter la colonie.
On aurait pu perdre la colonie, carrément. C'est-à-dire que en dessous d'un certain seuil d'individus, eh bien, les oiseaux ne viennent plus, quoi. Parce que ce sont vraiment des oiseaux coloniaux, donc ils ont besoin d'être ensemble. Donc si vraiment les conditions ne sont pas réunies pour les accueillir, ils abandonnent le territoire, quoi. C'est ça le problème.
Donc, et puis, c'est quand même pas très compliqué à mettre en place. Là, tu t'expliquais tout à l'heure qu'on avait fait le choix de pas laisser la possibilité aux hirondelles de se réinstaller sur les fenêtres pour pouvoir avoir une cohabitation. Mais c'est vrai que même si chez vous, vous avez des hirondelles, vous avez des difficultés de cohabitation, soit aux salissures, soit parce que vous pouvez pas fermer vos volets ou ouvrir vos fenêtres, faut savoir quand même que les hirondelles de fenêtre, si on met un nid artificiel au-dessus de la fenêtre, juste dans le même axe, mais au-dessus de la fenêtre, elles ont quand même tendance à bien accepter les nids d'hirondelles. Nous, à l'association, on a accompagné plusieurs communes comme ça qui avaient des soucis de cohabitation. Et on a 2 sur 3 où ça a très bien marché, une où c'est un peu plus compliqué, mais généralement, elles arrivent quand même à bien accepter, quoi.
Oui, oui. Là, on a l'exemple, hein, les nids artificiels qui ont été posés, on voit les murs sont propres parce que bon, ces nids sont bien fichus dans la mesure où l'ouverture du nid se situe vers l'extérieur, vers la cour. Donc du coup, il n'y a pas de salissure le long du mur. Et ça, on le voit tout de suite, hein, ça fait plusieurs années que ça a été posé, et là, le mur est impeccable.
Et là, en plus, on a créé une structure qui est, parce qu'à la base, le mur est pas forcément favorable à l'installation de nids d'hirondelles parce qu'il n'y a pas d'avancée de toit de ce côté-là.
Oui.
Mais on a créé une structure qui imite une avancée de toit.
Oui.
Et finalement, elles ont quand même accepté assez facilement ce nouvel endroit qui n'était pas forcément adéquat à la base, quoi.
Oui, tout à fait. Et de l'autre côté aussi, alors là, par contre, c'est sur le bord des fenêtres. C'est bien sur le bord des fenêtres, enfin près du bord des fenêtres, et là on voit pareil, hein. Ce sont des nids qui ont été ajoutés récemment, donc celui-ci a été fait l'année dernière, et puis l'autre aussi également, et donc ils sont pas loin des bords des fenêtres, on voit c'est propre, hein. C'est impeccable. Enfin, il faut dire qu'on a fait le nettoyage avec Camille il n'y a pas longtemps, mais puisque tous les ans en fait on fait un nettoyage des nids pour enlever les oiseaux morts, les œufs qui sont restés, les parasites, etc. Donc, à chaque fois, il y a un stagiaire naturellement relayé qui vient pour m'aider.
C'est le bisutasse des stagiaires.
Voilà, c'est ça, exactement. Et ils sont contents, parce que je crois que Camille était très intéressée par ça. Ça lui a plu, je crois. Elle a bien vu ce qui se passait.
Et puis, l'avantage aussi, du coup, c'est, tu précises là, c'est que les nids sont amovibles, en fait.
Alors, les nids sont amovibles, oui, tout à fait. On peut les démonter très facilement et puis les remonter aussitôt. Donc, c'est ça l'avantage des nids artificiels.
Bah, après, on peut rajouter qu'on n'est pas peu fiers parce que finalement, alors on était à moins de 100 mètres parce qu'on a proposé des nids de compensation à même pas 30 mètres des nids détruits. Et on a quand même proposé à la commune qui a accepté de doubler la mesure compensatoire, même si on était à moins de 100 mètres.
C'est ça.
Pour un nid détruit, on a mis 2 nids artificiels. Et au bout de 3 ans, on en est où là, Jean-Pierre ?
Faut dire qu'effectivement, la mairie nous a bien aidé quand même. Ils étaient très favorables à l'installation de ces nids. Donc ils ont bien compris l'utilité et puis la nécessité de sauvegarder cette espèce. Et donc du coup, on a posé donc 7 doubles nids ici sur la partie est de la mairie. Et on en a reposé 2 autres récemment sur la partie nord. Donc ça nous fait 9 nids doubles. Ce sont des nids doubles, donc ça fait 18 couples potentiels pour la mairie, qui sont sur la mairie. Et puis du côté de l'école, on le verra tout à l'heure, il y a 8 nids, donc 4 doubles qui ont été posés également. Donc ces nids ont été colonisés assez rapidement, bien que ça a mis un certain temps. C'est-à-dire qu'en fait, on les a posés au mois de mars 2021, et puis ils ont été colonisés qu'à partir de juin. Donc les hirondelles ont quand même une certaine réticence à s'installer au départ. Ils ont pris leur temps, ils ont essayé de voir ce que c'était que ces nouveaux trucs. Et finalement, ça s'est bien passé. Et puis, pratiquement, ils sont utilisés, pas à 100%, mais pas loin, tous les ans. Donc,
on a presque doublé la colonie en 3 ans.